J'aimerais commencer ce message de Noël en reprenant moi aussi quatre versets que je tire de l'évangile de Luc, les quatre premiers versets de son évangile en fait. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors vous le savez probablement tous, Luc est un des quatre évangélistes. Seulement il diffère de deux des évangélistes déjà de par sa nature, de par sa profession et de par son origine raciale. Luc était grec, alors que Jean et Matthieu, par exemple, étaient juifs. Et ce qui fait une grande différence entre les trois déjà, c'est que aussi bien Jean que Matthieu étaient des témoins oculaires de la vie de Jésus. Ils faisaient partie des 12 disciples les plus proches de Jésus. Et c'est à ça que Luc fait ici allusion. Luc n'est pas un témoin oculaire de la vie de Jésus. Il est venu à Jésus après la mort et la résurrection du Christ. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que les évangiles de Marc, pardon, de Jean, de Matthieu et de Luc se distinguent par cette dynamique. C'est-à-dire que Jean et Matthieu, ayant vu Jésus faire les miracles, transformer le pain et les poissons pour des multitudes, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont donc été les témoins de la vie de Jésus et ils ont donc rédigé leur évangile en rapport à ce qu'ils avaient vu. Par contre, Luc, je l'ai dit, n'a pas connu Jésus de son histoire. Luc était médecin, il va donc, au niveau de son évangile, faire œuvre d'historien, de journaliste. Il va s'attaquer aux faits de la vie de Jésus. Et il va adresser cette œuvre, son œuvre, l'évangile, selon saint Luc, il va l'adresser à son ami Théophile, qui est probablement une sorte de sponsor de l'époque, un converti, grec lui aussi, à qui il va donc dédicacer son évangile, afin, dit-il, d'en faire un récit crédible et avéré, vrai, reposant sur des certitudes susceptibles de consolider la foi et les enseignements que Théophile a déjà reçus jusqu'ici. Luc a donc consulté les témoins oculaires des événements de la vie de Jésus, en particulier sa famille, ses disciples, ceux l'ayant vu ressusciter. Et d'après l'apôtre Paul, plus de 500 personnes ont vu Jésus ressusciter. Chemin faisant, il va aussi sortir l'évangile de son ancrage strictement juif. Pour les non-juifs de l'époque, cette histoire de Jésus qui ressuscite, etc., c'est une fable juive qui concernait les juifs. À travers l'évangile de Luc, ça va commencer à concerner d'autres personnes, puisque justement, Luc, il est d'origine grecque, il n'est pas juif. Il est converti, mais il est grec. Donc il manifeste par sa conversion et par son évangile que l'évangile ne s'adresse pas seulement aux juifs, il s'adresse à tous les peuples de la terre. Les faits, rien que les faits, c'est ce qui intéresse Luc, afin justement de manifester que tout cela n'était pas qu'une histoire à dormir debout, un conte de fées, pour midinette en manque de sensations fortes ou de commérage bon marché. Concernant les faits entourant la naissance de Jésus, Luc a plus que probablement interrogé Marie, la mère de Jésus. Et vous savez pourquoi ? Ben, tout simplement parce que plus on va à la source des choses, plus on a de chances d'avoir une information de première main, une information sur laquelle on peut s'appuyer. Les hommes qui, comme Luc, ont eu au cours des siècles le courage, parce qu'il en faut, d'examiner les faits concernant Jésus, souvent en tentant de les réfuter, d'ailleurs en tentant de prouver qu'ils étaient faux, en sont pratiquement tous venus reconnaître que tout cela se tenait, que tout cela était vrai, y compris cette incroyable venue de Dieu en ce monde sous les traits de Jésus de Nazareth. Y compris donc cette naissance à Bethléem d'un petit garçon, semblable aux autres, si ce n'est que ce petit garçon était aussi Dieu, venu sauver les hommes. Deux exemples d'hommes qui sont partis à la recherche, en quête de la vérité concernant Jésus. Premier de ces messieurs, vous ne le connaissez pas forcément, Lewis Wallace, général nordiste, On ne choisit pas toujours le bon camp. Hein. Général Nordis, pendant la guerre de sécession, espion à 16 heures, ambassadeur des États-Unis, mais ce n'est pas pour tous ces titres qu'on le connaît, en fait. Et vous le connaissez. Il a terminé écrivain, et il a écrit, entre autres, Ben-Hur. Alors, la plupart d'entre vous connaissent plutôt le film, je pense, mais le film est d'abord un livre, écrit par Wallace. Ce qu'on sait, en revanche, beaucoup moins, c'est que l'idée de ce livre est sorti en fait d'une discussion lors d'un trajet en train avec un autre athée, parce qu'il l'était Wallace, un autre athée notoire. Lewis va donc s'engager à enquêter sur la vie de Jésus pour démonter cette histoire. Il va enquêter à charge sur la vie du Christ et tomber à genoux. Et c'est ensuite seulement qu'il écrira Ben-Hur comme une sorte de témoignage rendu à celui qui, dorénavant, n'habiterait plus l'étable de Bethléem, mais son cœur. Vous avez dit, ça, c'est le 19e. On va être plus proche de nous, 20e siècle, années 80. Lee Strobel, diplômé de la faculté de droit de Yale, journaliste au Chicago Tribune, est lui aussi athée. Et un athée incisif, agressif. Sa femme, pas de chance pour lui, ça c'est l'humour de Dieu, se convertit au christianisme et Lee le voit comme une trahison. Dès lors, tout sera bon pour détruire la foi de son épouse et la ramener à la raison. Sur les conseils de son mentor, athée, lui aussi, il décide d'enquêter de manière journalistique sur la vie de Jésus et sur sa résurrection. Il finira, lui aussi, par trouver celui dont il voulait absolument détruire la réalité et la divinité. Pourtant, malgré tous les témoignages, toutes les recherches, toutes ces personnes, bien réelles, qui depuis 2000 ans, depuis cette nuit de Bethléem, sont parties en guerre contre Jésus, et leur reddition finale face à l'évidence de la vérité et de l'amour de celui dont ils tentaient de combattre l'existence et la divinité, malgré toutes ces vies anxieuses revenues vers Dieu, la question reste néanmoins posée pour beaucoup. Qu'y a-t-il de vrai dans toute cette histoire ? Par exemple, qu'y a-t-il de vrai dans cette naissance virginale, à peine croyable, cette affirmation invraisemblable qu'une femme s'est retrouvée enceinte sans jamais avoir eu de rapport sexuel avec un homme ? Il faut être cinglé pour croire une telle ineptie. Et pas seulement enceinte d'un enfant, mais enceinte de Dieu. De Dieu dans les deux sens du terme. Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela ? Se poser cette question-là, c'est en poser une autre. Comment cet incroyable mensonge, si c'en est un, a-t-il pu avoir un tel impact dans l'histoire des hommes ? Parce que soyons clairs, soit tout cela est vrai, tous ces événements se sont bien passés, Dieu est venu en ce monde, Dieu existe, Jésus est Dieu fait homme, soit tout cela est une énorme supercherie, la plus grande arnaque de tous les temps. Alors posons-nous brièvement la question. Un mensonge, qui change les vies. Admettons. Mais alors, qu'est-ce qui est à l'œuvre, si ce n'est pas la vérité ? Pourquoi tant et tant y ont-ils cru et y croient-ils encore ? Serait-ce de la naïveté ? Est-ce que les chrétiens de l'époque et d'aujourd'hui seraient des grands naïfs, prêts à croire n'importe quoi ? Encore une fois, pourquoi pas ? Mais comment imaginer qu'on puisse y consacrer sa vie et pour certains d'entre eux, en mourir ? Aller jusqu'à donner sa vie pour ce mensonge. Qu'on le veuille ou non, qu'on s'y intéresse ou non, la naissance de Jésus dans le petit village de Bethléem, un bled, parce que c'est un bled perdu de la région sud de la Judée de l'époque, continue à susciter bien des interrogations. D'autant plus que, soyons clairs, cette naissance a tout changé. Cette naissance a tout transformé. Des hommes des femmes, des vies, des pays, des continents et l'histoire de l'homme. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler, accessoirement, que votre date de naissance est calculée à partir de la sienne, à partir de celle de Jésus. Ça n'est pas anecdotique. Hein. Depuis la nuit de Bethléem, toutes nos petites existences sont marquées de son sceau, que l'on soit chrétien ou pas. Nous lui devons, et nous sommes à Noël, hein, nous lui devons nos congés scolaires. Et le fait qu'actuellement on essaye de dégager le nom des fêtes chrétiennes en rapport avec les congés scolaires, il n'empêche que tous ces congés scolaires sont en rapport direct avec la vie et les actes de Jésus. Toutes les personnes qui ont trouvé Dieu, qu'elles aient été connues de par leur position, leur notoriété ou totalement inconnues du grand public au moment où ça s'est passé, ont toutes une chose très simple en commun. Elles ont cherché. Elles sont parties à la recherche de ce Dieu venu au monde il y a 2000 ans et mort sur une croix un vendredi de l'an 30 ou 33 de notre ère. Je l'ai dit, beaucoup de ces personnes se sont engagées dans cette enquête, le cœur fermé, animé des pires intentions à l'égard de ce Dieu auquel elles ne croyaient pas. Peu importe après tout leur motivation, elles ont cherché, elles ont investi du temps, de l'énergie, de l'intelligence, et elles ont trouvé celui qui les attendait, celui qui les espérait. Comme ces trois ministres venus d'Orient, ils ne sont pas beaux. Je ne suis pas sûr qu'ils ressemblaient à ça, mais enfin, c'est l'idée. Astronomes de leur état, ayant passé un temps non négligeable à observer une étoile particulièrement lumineuse, apparue dans la voûte céleste et devant, pour l'époque, forcément annoncer un événement incroyable, sortant du commun. En l'occurrence, ici, la naissance d'un roi. Il s'agissait donc d'un signe, d'une invitation à suivre cette étoile et à découvrir, aller à la rencontre de ce roi mystérieux. Et mes amis, on ne se rend pas compte, mais ils sont venus de loin. Ils sont venus de très loin, ces trois amis, pour rendre hommage et offrir à cet enfant dénué de tout, couché dans une mangeoire. Je ne sais pas si vous imaginez une étable avec la mangeoire où les bêtes se nourrissent, pour lui offrir les plus précieux des présents. Alors jugez par vous-même, hein, de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Alors ça peut là aussi, au XXIe siècle qui est le nôtre, paraît extraordinairement anecdotique, mais l'encens, on trouve ça dans les églises, ça pend, enfin, dans mon avis, hein, ça ne sent pas vraiment très bon. Ça fait fuir beaucoup de gens et s'en fout tous et d'autres. Mais pour l'époque, on ne présentait ce genre de présent, de grands personnages présentaient ce genre de présent uniquement qu'à une certaine catégorie de personnes. Et le fait que les mages observent cet usage et qu'ils se prosternent, se mettent à genoux devant ce petit enfant, montre qu'ils avaient une très haute idée de la grandeur de cet enfant. Je vais être clair, à l'époque, on se prosterne uniquement devant deux catégories de personnes, les rois et les dieux. C'est tout. En l'occurrence, Jésus et les deux. Tout ça pour un nouveau-né, quand on y réfléchit, posé donc dans une mangeoire qui est quand même un signe d'indigence, s'il en est. Un signe que ce petit bébé et sa famille ne possèdent quasi rien, enfin ne possèdent rien du tout. Ils sont des pauvres parmi les pauvres. Alors si tout cela n'avait pas été planifié d'en haut, on frôlerait la bavure, un GPS, si ça existait, défectueux. Au pire, une douce folie, ces trois gars étaient complètement, encore une fois, pas tout à fait justes. Oui, mais il n'y a pas que les ministres d'Orient, pas que les lettrés, les puissants, les intellectuels qui soient concernés par cette naissance. Il y a aussi, d'après les évangiles, les petits, les humbles, comme ces bergers, gardant leurs brebis la nuit de Noël et qui, comme dans un rêve, ont vu un ange leur annoncer la venue en ce monde du plus précieux des enfants, Jésus, le Sauveur, celui que le monde attendait. celui dont tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé comme en chuchotant, de peur de briser, de déflorer ne fût-ce qu'une parcelle de l'extraordinaire de cette naissance. Rendez-vous compte, hein, Dieu avec nous, ici, sur cette terre. Quel émerveillement, quel bouleversement pour tous ces hommes. Et je vais vous faire un aveu comme je les envie. Je les envie parce que rien ne pourra jamais leur enlever ce moment. Ce moment où ils ont compris, ce moment où ils ont cru. Mais au fait, pour certains d'entre nous en tout cas, nous avons nous aussi connu ce moment où l'évidence de la nuit de Bethléem s'est faite jour en nous. Où nous aussi nous avons cru ce qu'Ésaïe, le prophète, avait annoncé 600 ans avant la naissance du Christ. Qu'un sauveur nous était né, qu'un fils nous était donné. Un fils qu'on appellerait de génération en génération, conseiller, Dieu puissant, sauveur, Seigneur, Père éternel, Prince de la paix. Nous avons cru, mais d'autres doutent encore. Et il y a mille raisons possibles à cela, à ce doute, à commencer par la plus grande d'entre elles, la peur. La peur de ne pas savoir, la peur de s'engager sur un chemin dont on ne maîtrise rien, la peur peut-être tout simplement de ce que ce Dieu puisse exister, la peur de se retrouver face à un être à qui on ne peut rien cacher, qui sait tout de vous, de moi, de nous. Alors pour ceux et celles qui ne croient pas, c'était le cas de tout le monde au départ, pourquoi ne pas prendre la route? Pourquoi ne pas partir à la recherche de ce Dieu qui nous aime tant? Pourquoi ne pas pousser la porte de l'étable et y entrer? Il n'y a qu'une seule chose dans cette étable, le Seigneur. Alors peut-être vous n'avez pas de présent aussi fastueux à offrir, mais ce n'est pas grave. Le seul présent que Dieu attend de tout homme ou de toute femme sur cette terre, ce sont vos doutes, vos questions, vos chagrins, vos erreurs, vos péchés, vos blessures. Ce sont ça les présents que Dieu attend de chaque homme et de chaque femme aujourd'hui. Et pour ceux qui ont poussé la porte de cette étable, ils en sont ressortis sauvés, pardonnés, changés, transformés, vivants de sa vie à lui, vivants en fait pour la toute première fois. Alors c'est vrai que ce qui bloque beaucoup, surtout par rapport à cette naissance, et je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, cette naissance de Dieu en ce monde, c'est que ça touche à l'incroyable, au merveilleux, comme le disait le premier chant. L'homme n'aime plus trop le merveilleux, il se targue de rationalité. Mon intelligence m'interdit de croire à ce genre de choses. Et l'homme invoque souvent cela pour justifier son refus de croire. C'est trop impossible pour que j'arrive à y croire. L'homme rejette le merveilleux, l'inexplicable, et le considère dès lors comme inacceptable parce que tout simplement, ça ne fait pas sérieux. L'homme se refuse de croire au merveilleux comme si c'était Dieu qui se refusait à sa raison. Comme si on disait à Dieu, sans s'en rendre compte, ce serait bien que tu deviennes comme nous, que tu arrêtes d'être ce que tu es, parce que ce que tu es est trop improbable. Comme si pour s'ouvrir au mystère qui induit cette naissance miraculeuse, ou toute révélation de Dieu, ou tout miracle de Jésus, comme si on pouvait croire à tout cela sans que Dieu ne soit nécessaire. Comme si pour s'émerveiller devant un tableau de Monet, de Chagall, de Picasso, il suffisait de voir étendus sur la palette du peintre les différentes couleurs, les bleus, les jaunes, les verts, comme si le peintre n'avait pas à peindre pour que la rencontre se fasse, pour que le miracle de l'émerveillement se produise. Bien sûr que nous avons besoin de Dieu pour croire en Dieu. C'est une évidence. Alors Jésus n'est pas resté dans la crèche. Jésus a grandi. Il a quitté l'étable de Bethléem, il a appris le métier de charpentier avec son père, il a vécu sa vie d'homme, puis sa vie de Messie et a connu la mort sur une croix. Il est ressuscité le troisième jour et remonté auprès de son père, d'où il reviendra un jour dans la gloire pour installer son royaume. C'est l'espérance de l'Église depuis 2000 ans. C'est l'espérance de tous les chrétiens, que tous les chrétiens ont dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes depuis 2000 ans. Ce Jésus, en ce Noël, comme de tous les Noëls, c'est le cas de tous les Noëls, depuis le tout premier, dit à tous ceux qui le cherchent, parfois sans même le savoir eux-mêmes, il est sans doute un peu fou de dire que l'on cherche Dieu, allez partager ça avec quelqu'un, il va vous regarder bizarrement. Eh bien, Jésus, il dit la même chose à tous les Noëls, à toutes les occasions, à tous les hommes et toutes les femmes depuis 2000 ans. C'est le message qu'il dit à tous les hommes. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'ai poussé cette porte il y a 30 ans d'ici. Je ne suis pas le seul. Hein. Ça fait 2000 ans que des hommes et des femmes poussent la porte, ouvrent la porte au Christ. Alors, en terminant, j'aimerais simplement vous encourager, si ce n'est déjà fait, à tout simplement, il n'y a rien de plus bête que d'ouvrir la porte. Il y en a une, vous pouvez vous entraîner, il y en a une ici. Ouvrir, fermer. Ce texte est extraordinaire. Tant c'est simple, ouvrir la porte. Et l'ouvrir même s'il vous reste des doutes, des questions, des obstacles, des peurs, des angoisses, des incompréhensions, ouvrez la porte. Vous n'aurez pas la réponse à toutes les questions parce que ça n'est pas le but, et ça n'est pas nécessaire. Faites comme Luc, comme notre général nordiste, comme Wallace, comme Strobel, partez à sa recherche. Faites mieux, faites comme Jacob, le patriarche, un ancêtre de Jésus, qui sait, nous dit les textes, battu avec Dieu toute une nuit. Courageux, hein? Et après cette lutte, dont il est sorti perdant, bien entendu, Dieu lui a donné un autre nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Ça veut dire fourbe, tortueux. Oui. Ah, tu ne savais pas? Tu vois, tu n'es pas venu pour rien. Il l'a rebaptisé, si je puis dire, Israël. Israël, celui qui se bat avec Dieu. Eh bien, mes amis, battez-vous avec Dieu le temps nécessaire. Mais je vais encore ajouter ceci, et c'est peut-être le plus important. Battez-vous avec Dieu jusqu'à ce que vous perdiez. Battez-vous avec Dieu jusqu'à ce que vous perdiez. Et je vais me permettre d'émettre une prière pour ce Noël 2019. Je souhaite de tout mon cœur que ce Noël 2019 soit la date de votre plus grande défaite. Joyeux Noël à tous. Amen.